Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées? Que font-elles pour les développer? Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs? C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Cet épisode de Processus est un épisode spécial qui s'inscrit dans la première édition du Podcaston. Cet événement national rassemble près de 400 podcasteurs qui mettent en lumière du 25 au 31 mars 2023 des associations et des ONG. Je suis très heureuse de participer à cet événement avec cet épisode spécial dédié à l'association Axéculture. Axéculture œuvre à rendre accessible le spectacle vivant pour les personnes aveugles ou malvoyantes par le biais de l'audiodescription et pour les personnes sourdes ou malentendantes avec des adaptations en langue des signes française et du surtitrage adapté. Dans cet épisode, Lara David, chargée de communication chez Axéculture, explique la démarche de cette association.
Alors bonjour, moi je suis donc Lara David, je suis en charge de la communication chez Axéculture. Et donc pour faire un rapide historique de présentation de l'association, Axéculture a été créée il y a maintenant 30 ans, en 1993, par Frédéric Leduc, qui est encore l'actuel directeur de l'association, qui était à l'époque en 1990 l'assistant à la mise en scène de Jérôme Savary. Et à cette époque-là, Jérôme Savary était le directeur du Théâtre National de Chaillot. Donc l'association a été créée dans les murs de Chaillot. Et donc pendant 30 ans, elle a été hébergée à Chaillot, qui est désormais maintenant le Théâtre National de la Danse. Et depuis peu, nous avons emménagé à l'Opéra National de Paris sur le site Bastille. Donc c'est aussi un renouveau pour l'association. Et donc l'association, son but est de rendre accessible le spectacle vivant. Donc on va accompagner les théâtres et opéras. C'est un réseau d'environ 140 théâtres et opéras partout en France et même depuis peu en Europe pour les accompagner dans leur politique d'accessibilité à destination de deux types de publics, les personnes aveugles et malvoyantes, donc en proposant des audiodescriptions de spectacles, et les personnes sourdes et malentendantes avec donc des adaptations de spectacles en langue des signes française et du surtitrage adapté. Donc voilà, c'est vraiment les deux pôles de public, c'est le handicap sensoriel. Et Frédéric Leduc a été un des précurseurs vraiment de l'accessibilité culturelle dans le secteur du spectacle vivant. Ça n'existait pas et il a eu cette idée en parcourant les pages d'un magazine, en voyant qu'effectivement l'audiodescription existait déjà pour le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, mais pas encore du spectacle vivant. Il s'est dit pourquoi pas. Et Jérôme Savary l'a soutenu dans ce projet, lui a dit écoute, vas-y, lance-toi. Et donc la première pièce qui a été audio décrite était Un songe d'une nuit d'été, qui a été mis en scène par Jérôme Savary et qui a été présenté au Théâtre National de Chaillot. Donc on est passé de ce premier partenaire historique, le Théâtre National de la Danse, jusqu'à aujourd'hui plus de 140 théâtres partout en France. La manière dont ça fonctionne, c'est donc généralement les théâtres avec lesquels on collabore nous envoient leur programmation prévisionnelle. Et on étudie donc les spectacles qui vont être accueillis dans leur lieu. Et là, donc les personnes en charge de la programmation chez Axéculture, Clémence Pierre, qui est en charge du pôle audiodescription, et Delphine Amont, qui est en charge de la production et de la programmation LSF et surtitrage adapté, vont étudier effectivement quel spectacle se prête au mieux pour être rendu accessible. Donc effectivement, pour le pôle audiodescription, à destination des personnes aveugles et malvoyantes, ça va être des spectacles avec, si le décor est assez neutre, c'est pas très grave. L'important, c'est que, par exemple, il y ait beaucoup de narration. Et donc là, l'audiodescription, qui est un simple dispositif, une fois en salle, va permettre à la personne aveugle ou malvoyante de percevoir le déplacement des comédiens, un détail des décors, des costumes. Voilà, tous les éléments visuels auxquels ils n'ont pas accès vont être permis et donnés via l'audiodescription. Et donc, elle travaille en collaboration avec à la fois le théâtre, mais aussi les compagnies. Donc voilà, il faut que les compagnies aussi soient dans cette démarche de rendre accessible le spectacle. Ils vont donner aussi les textes, ce qui va permettre à l'auteur d'étudier ce qu'il faut décrire. Donc il y a vraiment aussi un échange entre l'audiodescripteur et la compagnie, quoi, avec le metteur en scène particulièrement. Quelle démarche, quelle est l'intention du metteur en scène pour vraiment coller aussi à cette... pour ne pas dénaturer aussi ce que souhaite mettre en avant le metteur en scène. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'audiodescription. Et pour les adaptations en langue des signes française, là, pour le coup, c'est pas un dispositif qui est caché en salle. Pour le coup, là, le comédien LSF est sur scène avec les autres comédiens, donc visible de tous. Et là, c'est une autre démarche. Généralement, on choisit des spectacles donc très, très, très visuels, avec des décors impressionnants, parfois aussi de la musique assez forte, parce que je pourrais le détailler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de médiations ou d'équipements qui existent et qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir ressentir, par exemple, les sons, la musique. Par exemple, on a ce qu'on appelle les gilets vibrants SubPack, qui est une technologie qui a été développée par Timpi. Donc c'est des sortes de gilets que les personnes peuvent enfiler et ressentir via les vibrations tout le son du spectacle. Donc ça, c'est aussi un plus. Et donc voilà, il faut bien penser aussi que on appelle ça adaptation LSF, parce que la pièce existe déjà, elle a déjà été créée, et nous, on arrive dans la chaîne pas dès la création de la pièce. Donc elle n'est pas pensée pour être bilingue, elle est pensée pour être adaptée. Donc on ajoute un comédien. Donc là aussi, ça nécessite de beaucoup échanger avec la compagnie, les comédiens sur scène, pour voir quelle place on peut donner à ce nouveau personnage. D'ailleurs, généralement, il y a un comédien signant sur scène, mais qui peut interpréter ou adapter plusieurs personnages qui sont d'ores et déjà sur scène. Donc dans le choix des spectacles, Delphine Amon, qui est en charge de la programmation et de la production LSF et STT, réfléchit à ça aussi. Il faut que le spectacle ne soit pas trop long, parce que c'est vraiment aussi un exercice assez, assez fort, hein, pour le comédien LSF. Il faut que les comédiens ne soient pas trop nombreux sur scène pour que la personne puisse suivre et la possibilité d'adapter au mieux chaque personnage. Et parfois, il arrive même aussi qu'il y ait des binômes. Donc là, très récemment, hier même, à l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie, il y a eu l'adaptation de l'opéra Climat, où là, il y avait un binôme d'une interprète signante, qui est entendante, et d'une comédienne sourde. Donc les deux ensemble ont pu adapter le spectacle, et ça marche bien, parce qu'on tient aussi de plus en plus à inclure forcément la communauté sourde aussi dans ces projets, parce que ça les concerne directement et qu'ils sont absolument légitimes d'être dans cette boucle. Donc voilà un peu pour le processus et de comment ça se passe. Et ensuite, une fois que le spectacle existe, ce qui est important de penser, c'est toutes les médiations qui vont accompagner le spectacle, pour que les spectateurs s'en emparent et toutes les clés de compréhension nécessaires. Par exemple, je pense particulièrement aux audiodescriptions de danse. Un spectateur aveugle peut aussi se questionner sur sa place en fait dans une salle de spectacle qui présente un spectacle de danse. C'est très visuel, il n'y a pas de narration, c'est très technique. Donc pourquoi, en tant que personne déficiente visuelle, je viendrais voir un spectacle de danse? Et là, pour le coup, l'audiodescriptrice, il y en a deux qui sont spécialisées dans la danse chez Accès Culture, puisque c'est avant tout aussi des danseuses. Et là, l'audiodescription, elle va être à la fois donc technique, la technique de la danse, tous les mouvements avec un vocabulaire assez précis. Mais pour que ce soit aussi accessible à tous, il va surtout y avoir aussi dans leur démarche beaucoup de métaphores aussi, donner l'imagination pour créer des images mentales dans la tête des spectateurs. Donc voilà, et pour que la compréhension soit totale, dans ces médiations, par exemple, en amont du spectacle, on peut proposer des visites tactiles. Donc là, les spectateurs sont invités à venir sur le plateau, avant la représentation pour toucher du bout des doigts le décor, les éléments du décor, les costumes des comédiens pour savoir aussi les matières et puis surtout aussi échanger soit avec la compagnie, soit avec l'audiodescriptrice pour avoir aussi des compléments d'informations sur le spectacle. Donc voilà, c'est toute une chaîne qui se met en place pour avoir une accessibilité complète au spectacle. Et du côté LSF, c'est la même chose. On peut aussi prévoir des ateliers de danse en amont. Donc là, les ateliers de danse, elles vont permettre, avec aussi en coordination avec la compagnie, permettre de comprendre toutes les et même reproduire les phrases chorégraphiques qui sont présentes dans le spectacle. Voilà, reproduire les mouvements. Et ce qui permet, une fois dans la salle, assis sur son siège, d'avoir « Ah oui, mais ça, c'est vrai, on l'a vu, en fait, ce matin. » Donc, c'est vraiment aussi tout un accompagnement autour du spectacle qui est très, très important. Et ça, les théâtres le savent, s'en rendent compte et s'en saisissent. Nous, en tant qu'association, effectivement, donc, on produit l'adaptation, mais aussi on accompagne, puisqu'on... Les théâtres ne savent pas forcément de comment procéder, soit aussi dans la recherche de ce public qui est assez spécifique. Donc l'important, c'est de les accompagner voilà, et dans la création, mais aussi dans la suite et dans l'accompagnement. Et ensuite, ils se saisissent du projet et ils sont assez autonomes là-dessus pour continuer d'année en année. Et généralement, un théâtre qui commence à se saisir des dispositifs ou des adaptations... continue, parce qu'on voit aussi un réel bénéfice quand on voit le sourire des personnes sur leur visage. Donc ça, c'est voilà, on voit le travail qui est nécessaire. Voilà. On ne fait pas de différence entre est-ce que cette personne est aveugle de naissance, est-ce que cette personne est devenue aveugle de naissance, est-ce que cette personne est malvoyante, parce qu'en fait, il y a tellement de types de déficiences que... c'est impossible de tomber sur un groupe homogène, disons. C'est il y a tellement de types de déficiences, par exemple les malvoyants qui vont avoir la vue qui se rétrécit pour avoir une vision que centrale, une vision floutée, parfois certains perçoivent de la lumière. Alors ça, pour le coup, c'est plus pensé une fois dans le lieu, par exemple le placement en salle. On va conseiller au théâtre d'avoir un placement spécifique pour ce public, par exemple pour les personnes aveugles et malvoyantes, si elles peuvent percevoir un minimum ce qui se passe sur scène, rien que les ombres qui passent, etc. Mmh. On va les mettre par exemple au troisième ou quatrième rang pour que voilà, elles aient le maximum d'éléments compréhensibles. Mais en tout cas, dans la création de l'adaptation, cette différenciation n'est pas pensée. Les seuls éléments qui sont pensés, c'est, comme je le disais, par exemple, un spectacle qui est très visuel, là, Delphine va se dire, tiens, ça peut se prêter, c'est cohérent pour un spectacle, enfin pour des spectateurs sourds ou malentendants. Et à l'inverse, pour les personnes aveugles et malvoyantes, ce qui est important, c'est vraiment voilà, le récit, la musicalité, les instruments, voilà, donc... Et c'est très varié, parce qu'on peut aussi à la fois être sur des spectacles donc, d'opéra, sont très musicaux. On peut être aussi sur donc, de la danse, comme on l'a vu, du théâtre, mais aussi du cirque. Enfin, voilà, vraiment, on a un panel d'accessibilité qui est très large, et ça, tant mieux, puisque le cirque et la danse, c'est relativement nouveau. Pour le coup, ça fait 5-6 ans que des adaptations de ce genre peuvent exister. Donc c'est chouette, mais je pense qu'il y a toujours... un travail et une réflexion de la part des audiodescripteurs. Et nous, dans nos équipes, il y a environ une 10-15 d'audiodescripteurs qui sont des auteurs à part entière. Et ils ont chacun leur spécificité. On va avoir les audiodescripteurs qui sont plus portés sur le jeune public. Donc là, effectivement, dans leur création, ça va être utiliser des mots plus simple. Pareil, des petites métaphores qui vont permettre au jeune public de mieux capter ce que souhaite dire l'audiodescripteur. Enfin voilà, ça va être vraiment dans ce sens. On a les audiodescripteurs de danse, les audiodescripteurs de cirque. Voilà, ça se divise comme ça en spécialités. Et l'important aussi, c'est, voilà, c'est vraiment cette mise en lien et cet échange qu'ils ont avec la compagnie, ce qui est permis de mettre en place.
Et justement, est-ce que quand vous travaillez sur l'adaptation, est-ce que vous travaillez également avec l'auteur pour vous assurer que vous ne dénaturez pas le propos? Et est-ce que aussi ensuite vous travaillez avec peut-être des testeurs déficients visuels ou qui parlent la langue des signes pour vous assurer qu'ils comprennent bien ce qui est transmis?
Bah alors la compagnie a tout, enfin voilà, on est toujours en échange avec eux, il y a toujours un droit de regard, que ce soit pour l'audiodescription, la langue des signes ou le surtitrage adapté. Et effectivement, pour le cas des testeurs, oui, en fait, il existe ce que l'on appelle les relectrices ou relecteurs d'audiodescription, pour le cas de description. Et là, donc, l'audiodescripteur va avoir un temps assez long, d'ailleurs, parce qu'ils vont retracer tout le spectacle, avec une personne aveugle, et qui va donc lui dire « Ah ben non, là, tiens, faudrait peut-être changer ce terme, c'est un peu ambigu. » Donc voilà, c'est un temps assez long. On peut, par exemple, c'est sur le temps d'une journée, parce qu'il faut vraiment décortiquer toute l'audiodescription et tout le spectacle, donc en fonction aussi de la durée de la représentation du spectacle. Et pour les adaptations à LSF, c'est généralement donc l'avis du regard extérieur. Le regard extérieur, c'est une personne donc sourde qui va être présente aussi pendant le filage, donc pendant les répétitions, etc., et qui va regarder la prestation du comédien signant sur scène, et ça particulièrement pour les comédiens signants entendants. Et donc là, pareil, qui va lui donner des avis. Ben non, ça, ce signe-là, il peut être aussi un petit peu ambigu. Vaut mieux utiliser ce signe-là. Voilà, il y a vraiment un échange entre le regard extérieur ou le relecteur ou la relectrice d'audiodescription pour que pour que l'adaptation soit la plus professionnelle possible. Parce qu'on a vraiment envie de se positionner comme tel, d'avoir un travail très propre autant dans l'écriture, autant dans la production, et autant dans la technique au moment de la régie, donc, que ce soit très propre. On travaille aussi avec une équipe donc de régisseurs qui sont là les soirs de spectacle et qui envoient les tops, par exemple, de description. Donc tout doit être très bien monté. Et donc il y a toute cette démarche de l'œuvre, et ce qui est important aussi pour que le spectateur revienne et se sente bien et se sente en confiance, c'est aussi tout ce qui va concerner l'accueil, parce qu'effectivement, une personne aveugle et malvoyante, on pense souvent, une fois qu'elle est dans le lieu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le spectacle est bien? Mais il faut penser aussi à ce qu'on appelle la chaîne d'accessibilité. Qu'est-ce qui se passe avant? Comment elle se renseigne? Est-ce que le site est accessible? Comment je me déplace? Est-ce que les informations sont faciles à trouver? Et ça aussi, c'est toute une réflexion que le lieu d'accueil doit porter et doit avoir. On les accompagne aussi là-dedans. Pour le cas donc de l'adaptation en langue des signes française, donc effectivement il y a un comédien sur scène qui s'insère dans le spectacle, donc la représentation est adaptée en LSF, mais c'est pas un nouveau spectacle, c'est juste c'est l'adaptation qui est inclue dans le spectacle d'origine. Ensuite, l'adaptation, généralement, donc par exemple quand la compagnie a dans un théâtre par exemple 5 soirs de spectacle, et généralement il y a un soir voilà, où il y a l'adaptation en langue des signes française, c'est ouvert à tout le monde, et ça permet aussi au tout public d'être sensibilisé, ouais. Ou même d'être curieux, tiens, il y a une personne qui signe là au sein des comédiens, on s'en renseigne, et c'est comme ça aussi qu'il y a un certain bouche à oreille. Donc il n'y a pas
de soir réservé, en fait.
Non, il n'y a pas de soir réservé. Et pareil, pour l'audiodescription, c'est encore différent. Pour le surtitrage, c'est pareil. Puisque là, la pièce sur scène reste absolument la même. Et c'est juste le dispositif qu'il va y avoir des personnes. On va voir des personnes en salle, c'est vrai, avec des casques, et qui vont entendre l'audiodescription. Mais là, pour le coup, c'est assez intime et discret. Si on remonte en amont, le travail qui est fait, c'est donc l'audiodescripteur en lien avec la compagnie qui écrit l'audiodescription, qui est relu par la relectrice ou le relecteur, et qui enregistre ensuite en studio ses pistes, avec dans un studio, micro, et les pistes sont préenregistrées. Ça, c'est aussi une particularité chez Axéculture, parce que généralement, les audiodescriptions qu'on peut voir aussi, puisque il n'y a pas que Axéculture qui en font, il y a aussi des indépendants audiodescripteurs. Généralement, les audiodescriptions, elles sont faites en direct, alors que chez Axéculture, voilà, elles sont préenregistrées, le travail, le son est lissé, pour que, voilà, qu'il n'y ait pas de bruit parasite, etc. Elles sont lancées par le régisseur le soir du spectacle dans les casques des personnes d'aveugle. Mais le spectacle en tant que tel se déroule. Et pareil, donc les spectateurs et les malvoyants, le soir de la représentation, généralement, voilà, pour le même exemple, 5 soirs de représentation, il peut y avoir 2 soirs de représentation qui est proposé en audiodescription. Ça, c'est en fonction aussi du budget attribué à l'accessibilité par les théâtres, parce que c'est un certain coût pour eux. Donc, effectivement, toutes les représentations ne peuvent pas être proposées avec ce dispositif. Mais voilà, il y a une sélection, et parmi l'histoire de spectacle, il y a des propositions qui sont rendues accessibles. Alors, le retour des usagers, hein, des personnes directement concernées, est très très important. Et nous, en tant qu'association aussi, notre rôle, c'est ce lien qu'on a effectivement avec les théâtres, les compagnies, mais c'est aussi du côté des spectateurs. Et donc, généralement, de manière automatique, systématique, 3 fois par an, on organise ce qu'on appelle des entrevues spectateurs et spectatrices, où sont invités les spectateurs sourds ou malentendants, aveugles et malvoyants, à venir lors d'une réunion en soirée pour débattre, nous donner leur retour, leurs avis, leurs besoins aussi. Et c'est en fonction aussi de ces retours que nous, on peut faire remonter au théâtre, et aussi qui sert aux personnes en charge de la programmation. Par exemple, on peut voir que là, il y a des envies pour développer un peu plus les spectacles d'humour. On a déjà eu aussi ce type de demande. Donc on est à l'écoute de retours que nous font les spectateurs. C'est ce qui permet à la fois à Axéculture et à la fois au Théâtre du Réseau de se perfectionner, de faire mieux, et que ce soit dans le choix des spectacles, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans la communication. Et c'est vraiment tout tissu qui est important. Et ce lien privilégié qu'on a avec les spectateurs, il est nécessaire, puisque il y a tout ce maillage qui est nécessaire et important, c'est-à-dire tisser le lien. Et ça, c'est aussi un grand rôle d'Axéculture, entre les associations de personnes aveugles ou malvoyantes ou sourdes et malentendantes, les collectivités, le lien avec les collectivités, le lien avec les associations, le lien avec les écoles aussi, parce que par exemple à Paris, on a l'INJA et l'INJS, qui sont les Instituts Nationaux des Jeunes Sourds, des Jeunes Aveugles. Et ça commence aussi dès cet âge-là, en fait, leur donner le goût, leur dire que oui, c'est adapté, et oui, vous avez votre place dans ces lieux de spectacle. Les projets de développement pour Axéculture, c'est donc fortifier le réseau, développer de plus en plus nos collaborations avec les théâtres, pour qu'il y ait de plus en plus de propositions et qu'elles soient de plus en plus visibles aussi. Développer le contact qu'on a avec les personnes aveugles, malvoyantes ou sourdes et malentendantes, pour que ces dispositifs ou ces adaptations soient de plus en plus connus, parce que il arrive effectivement que ces cultures ne soient pas forcément dans les consciences de tous les spectateurs. Donc vraiment, c'est ce lien qui est important et qu'on souhaite de plus en plus développer au niveau national, mais aussi en Europe. Donc voilà, élargir ce réseau, le fortifier, développer davantage de spectacles, et sur divers genres. C'est important qu'il y ait vraiment une pluralité et une diversité dans le choix des programmes. Et aussi, donc, de plus en plus, on essaye de faire le lien avec des autres structures culturelles. Donc nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est le spectacle vivant. Mais ce qu'on souhaite, c'est aussi développer des ponts avec les structures, par exemple, muséales, et faire le lien pour faire comme une proposition dans la longueur, et monter des liens, et ce qui permet aussi aux structures bah, de coupler les communications, coupler du coup la diffusion, multiplier les publics. Enfin voilà, ce public-là va aussi aller dans ce lieu, mais aussi dans ce lieu, puisque les offres se multiplient. Voilà, c'est vraiment ces ponts qu'on essaye aussi de développer de plus en plus.
Merci à Lara David et Accès Culture pour l'enregistrement de cet épisode. Merci également au Podcaston pour cette initiative. Si vous souhaitez soutenir Accès Culture, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver le lien vers leur site et faire un don. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous pour faire connaître cette association et sa démarche. Enfin, vous pourrez aussi trouver le lien vers le site du Podcaston avec tous les podcasts et toutes les associations mises en avant. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.